19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 février et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Peut-être avez-vous entendu que des classes fermées ces derniers temps. C'est le cas un peu partout dans le Finistère. Mais on s'intéressera notamment à celles qui viennent de fermer au Relais Carillon tout à l'heure. Mais avant ça, on parle littérature. Le souvenir des balades dans Brest sans masque et après 18h paraît déjà très loin pour bon nombre d'entre nous. Je me suis donc dit qu'un retour en arrière dans un Brest vierge de Covid, mais pas vierge de mystère, nous ferait du bien. Et pour ça, je voulais vous parler d'un roman sorti il y a quelques temps déjà, intitulé « Barack Obama », et dont l'auteur, Michael Cabon, nous fait le plaisir d'être en studio avec nous ce soir. Bonsoir Michael.
Bonsoir Marie.
Avant de parler de votre livre, de son intrigue, je voulais revenir avec vous sur votre pratique de l'écriture. Et ainsi, je voulais savoir c'est quoi votre premier souvenir lié à l'écriture.
Le premier souvenir lié à l'écriture, c'est un souvenir lié à la lecture. Parce que souvent on apprend à... Alors on peut apprendre à lire et, en même temps qu'on apprend à écrire, mais en tout cas moi c'est... je suis tombé dans la lecture grâce à une sœur aînée qui voulait que je sois un peu plus tranquille et qui m'a amené à lire. Et puis après au fur et à mesure, je crois que le premier souvenir de quelque chose que j'ai écrit qui soit pas scolaire, ça doit dater de mes 10-11 ans à peu près, où j'écrivais pour moi-même, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, une revue d'actualité inspirée du canard enchaîné que j'ai appelé le canard déchaîné, et qui était, bon, je crois que j'ai gardé les quelques exemplaires que j'écrivais à la main, mais qui ne sont pas d'une grande qualité littéraire.
Donc là, vous venez de dire à l'instant que souvent la lecture est liée à l'écriture. Du coup, est-ce qu'il y a un livre, un premier livre qui vous a marqué, qui vous a donné envie d'écrire ?
Qui m'a donné envie d'écrire. Alors, si je donnais les noms des auteurs qui m'inspirent, parmi lesquels on trouvera Camus, parmi lesquels on trouvera Kundera ou Jonathan Coe, par exemple, ce serait peut-être un peu prétentieux. Mais j'ai aussi écrit pour pouvoir mettre un bouquin avec mon nom sur la tranche entre ces grands auteurs-là. Et le premier livre qui est sorti, diffusé par une maison d'édition, c'était Le Pendu de Brest, coécrit avec Arnaud Morvan dans les années 2000, au début des années 2000, et que j'ai positionné immédiatement, dès que j'en ai reçu les exemplaires dédiés à l'auteur, à côté de ces auteurs fétiches, pour qu'ils puissent me porter chance, et pas pour leur faire de l'ombre, parce que j'en serais bien incapable.
Et donc pour revenir à votre livre, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ce livre en quelques mots, avec vos mots à vous ?
Alors c'est l'histoire d'un tirailleur sénégalais, en tout cas d'un soldat des armées d'Afrique, qui est démobilisé après la Seconde Guerre mondiale, et qui vient sur Brest un peu par hasard, et qui va y construire sa vie, qui va y rester jusqu'à sa mort qui intervient dans les premiers chapitres de l'ouvrage. Donc là, il n'y a pas trop de mystère. Mama va mourir, et il meurt même très très rapidement, et l'histoire, c'est celle de l'enquête de Jo et de Chloé Cabioche. Jo, c'est un commissaire de police qui est devenu aveugle sur le tard, ce qui permet d'apporter une touche particulière, parce que il ne voit pas, donc il a besoin de quelqu'un qui voit pour lui. Il va utiliser sa petite fille, Chloé, qui va être ses yeux en quelque sorte lors des enquêtes. Et Jo raconte à Chloé sa première enquête, celle qu'il a menée quand il était tout jeune policier. Et donc ça nous ramène dans le Brest des années 70. C'est aussi l'occasion de pouvoir parler de tout ce qu'il y a eu avant, parce que Mama est là, lui, depuis 1945, depuis sa démobilisation. Donc il rentre dans un Brest totalement détruit par la guerre, et puis il va participer à sa reconstruction certes architecturale ou urbaine, mais aussi sa reconstruction économique, en travaillant pour l'arsenal de Brest. Et il va rencontrer des personnages qui sont inspirés d'une forme de réalité, mais où toute l'intrigue est inventée. Et l'objectif du livre, c'est de pouvoir parler du Brest d'hier, mais aussi du Brest d'aujourd'hui, qui a beaucoup changé.
Et justement, en parlant de Brest, donc l'ensemble de l'intrigue se passe à Brest, au cœur même de la ville. Pourquoi choisir Brest comme scène de vie, comme scène de crime ?
Parce que c'est une ville dans laquelle je vis depuis très longtemps, dans laquelle je suis né. Alors c'est beaucoup plus facile de s'inspirer des choses qui sont juste au quotidien et proches de soi. J'aime bien voyager, de visiter d'autres endroits, mais celui dans lequel je me sens pleinement chez moi, c'est celui-ci. Alors c'est pas forcément pour sa beauté, mais pour une forme de chaleur, d'habitude aussi, de routine. Et il n'y a pas un seul moment où je peux m'ennuyer dans cette ville, parce que le pouvoir de l'imagination l'imagination. Et en tout cas, cette ville laisse place au pouvoir de l'imagination. Tout à l'heure, j'étais en train de me balader avant de venir à cette émission, en écoutant des choses pour le travail, en joignant l'utile et l'agréable. Et je trouve qu'avoir la possibilité de pouvoir être sur le cours d'Ajot, de voir le panorama sur la rade de Brest, de voir les maisons qui y sont, et puis voir les gens aussi qui sont inspirants. On peut le faire dans quasiment toutes les villes du monde, mais c'est mieux de le faire dans une ville dans laquelle on aime vivre, dans laquelle on a des souvenirs de joie, des souvenirs de peine, finalement un peu des souvenirs de vie.
Et en plus de simplement se passer à Brest, il y a quand même beaucoup de mentions de rues, d'avenues, de bâtiments par lesquels les personnages passent. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de mentions, c'est un moyen de permettre aux lecteurs et aux lectrices d'avoir l'impression d'y être, de faire le parcours avec les personnages?
Le livre est écrit à un moment donné de mon existence où je marche beaucoup. Alors j'ai continué à marcher au sens propre comme au figuré, mais je marche beaucoup et donc je me balade dans la ville et je vais notamment de l'endroit où j'habite à l'époque, qui est du côté des Quatre Moulins, jusqu'au centre-ville de Brest. Donc je passe par beaucoup d'endroits et des endroits qui sont en reconstruction, en rénovation à l'époque. Donc c'est le cas des Capucins. Donc je passe vraiment quasiment toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine, par ces endroits-là. C'est l'occasion pour moi donc de les inspecter en quelque sorte. Et puis on s'ennuie un peu parfois en marchant, donc on imagine des choses, on regarde, on fait attention un peu plus à des détails. C'était l'occasion de pouvoir retranscrire en quelque sorte ces promenades, aussi dans l'idée d'en faire des promenades littéraires, c'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs livres et un des précédents est dans un endroit qui est relativement méconnu des Brestois, que je connaissais pas non plus avant d'habiter juste à côté, qui est le parc de Carvalon, où à force d'y aller, de me promener, etc., je m'en suis inspiré et c'est beaucoup plus facile quand on a la possibilité d'avoir quasiment les photographies en temps réel, où il est possible de pouvoir décrire des scènes, des endroits, des lieux que l'on est en train de vivre et que l'on connaît très bien. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir marquer un peu sur le papier pour pouvoir s'en souvenir des moments particuliers d'une existence qui est un peu la mienne et puis qui est celle des personnages.
Et pour revenir au roman, à sa structure, la structure elle est un petit peu particulière puisque vous alternez les chapitres dans le présent avec Chloé et Joe, donc ce grand-père qui va lui raconter sa première enquête, et des chapitres qui se déroulent dans les années 70 et un peu avant, au moment où Mama arrive à Brest. Pourquoi choisir une telle structure d'alternance ?
Alors, on peut avoir plusieurs styles dans les livres et à chaque fois, c'est une expérimentation pour moi. Je fais attention à ce que mes lecteurs et surtout les lecteurs bienveillants veulent bien me dire des livres précédents. Donc, de l'un d'entre eux, c'était pas assez tranchant pour un roman policier. Donc, dans celui qui a suivi, il y avait de l'hémoglobine partout et le problème était réglé, peut-être un peu trop, parce qu'il pouvait faire peur. Et là, j'avais envie de prendre un genre un peu différent. C'est pas très original dans le sens où je suis pas le premier à faire cette alternance de chapitres entre le présent et le passé, mais ça permet à la fois de connecter Joe et Chloé qui ont la particularité de vivre dans notre époque, donc Chloé qui a une dizaine d'années, elle peut pas avoir connu le Brest des années 70, et pour le faire revivre je suis obligé d'utiliser le passé, c'est-à-dire obligé d'être dans une anecdote, dans une histoire dont le seul témoin vivant de ce duo de personnages ne peut être que le grand-père qui se trouve en plus à la particularité d'avoir une quarantaine d'années de moins, donc avoir aussi plein de possibilités différentes. Il n'est pas aveugle au moment de l'enquête, ce qui deviendra par la suite. Donc ça permet de jouer sur d'enlever des handicaps ou d'en rajouter pour partie. Et ça permet aussi d'aborder une période de la vie de Brest ou de l'histoire de Brest qui m'intéresse particulièrement pour plein de raisons, qui est l'immédiate après-guerre. Alors pour la guerre, peut-être qu'on parlera de projet par la suite, et donc je reviendrai sur cette période-là qui est avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça permet de parler d'une ville que moi j'ai pas connu, pas beaucoup en tout cas, parce que ça s'arrête à peu près au moment de ma naissance, hein, le décès de Mama, et de pouvoir retranscrire, rechercher, de savoir comment la vie pouvait être à ce moment-là, parce que beaucoup de ces endroits qui sont évoqués sont des endroits qui aujourd'hui ont considérablement changé, sont soit beaucoup moins vivants qu'ils ne l'étaient à l'époque, où il y a toute une sociologie de la ville qui est différente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70 ou dans les années 60. Et donc c'est un prétexte pour pouvoir moi-même faire ce travail de recherche, même si c'est pas un livre d'histoire, c'est d'abord une intrigue qui est très romancée, qui est totalement fictive, mais qui prend appui sur des éléments qui sont vraisemblables, qui sont probables.
Et justement, ce moment de recherche, par quoi il passe ?
Alors il passe par la lecture de livres. Ici, le titre du livre, c'est Barack Obama, parce qu'il va vivre dans les baraques, comme le font beaucoup de Brestois jusque la fin des années 60, début des années 70. C'est à peu près ça, les dernières personnes qui vivent en baraque, c'est au début des années 70, avec la construction d'un quartier qui se déroule, enfin qui se trouve juste à côté de vos studios, qui s'appelle Bellevue. La cité du Bouguin, qui est patrimoine non plus, a été un lieu où il y a eu des dizaines de milliers de personnes à y vivre, à y transiter, ou à y vivre même pendant quelques années. Donc j'ai lu, regardé beaucoup de reportages ou beaucoup de livres qui traitaient de cette période-là, qui a été assez emblématique de la vie de Brest, où dans les témoignages en tout cas qui en ressortent, certes il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, ce sont des villes qui sont censées être provisoires, le temps de pouvoir reconstruire la ville. Tous les habitants, enfin beaucoup d'habitants sont revenus. Brest c'était une ville très importante à l'époque par rapport à Rennes, par exemple. C'est la même dimension. Brest doit quasiment même avoir plus d'habitants avant la Seconde Guerre mondiale que Rennes. En tout cas, c'est relativement proche. Elle se vide, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste quasiment que 2000 qui sont les personnes forcées d'être là pour des raisons administratives, pour des raisons liées au secours. Et donc, on a une ville qui est détruite dans son centre. Il faut reloger des personnes. On les met dans des baraques. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que malgré cette misère-là qui est décrite dans le livre, qui est décrite encore mieux dans plein de bouquins qui sont parus sur cette question de l'époque des baraques, il y a une forme de solidarité particulière. C'est peut-être la solidarité de ceux qui n'ont rien et qui sont obligés de pouvoir trouver du lien, un intérêt pour cela. Alors ces baraques, il y en a eu, elles ont été utilisées aussi pour les personnes qui sont revenues d'Algérie après l'indépendance de ce pays, dans le sud de la France. Et ici, à Brest, ça a été les Brestois qui y ont été, qui ont vécu des moments particuliers, des moments aussi d'une jeunesse, parce que les gens qui racontent aujourd'hui cette époque des baraques étaient des personnes qui étaient jeunes à ce moment-là et qui ont une forme, comme on a souvent quand on repense à sa jeunesse, de nostalgie du temps révolu.
Et moi je voulais revenir sur plusieurs passages qui m'ont marqué. Il y en a un qui m'a marqué parce que c'est une sorte de reprise d'Édith Tinègre d'Agatha Christie. Ça a été une influence pour vous ?
Alors pas Agatha Christie, parce que je suis pas un grand lecteur de romans policiers. C'est pas mon genre préféré de prime abord. J'aime bien ce qui relève de l'intrigue dans un livre. Ce qui m'intéresse plus que le style, c'est l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire qu'on est en train de me raconter. Ici, ça a été une source d'inspiration stylistique plutôt. C'est alors un hommage évidemment à cette papesse du roman policier qui a inventé par elle-même beaucoup de choses. Et je crois qu'on dit plus les Édith Tinègre maintenant. Le politiquement correct arrive aussi dans la littérature. Toujours est-il que c'est une source d'inspiration et qui permet de rythmer un des derniers chapitres du bouquin et qui raconte comment Mamadou est mort dans l'atelier des Capucins.
Il y a un autre passage pardon, qui m'a marqué, qui est un passage sur les femmes, et je vais le lire, c'est assez court. Autour du lavoir, les femmes penchées sur leur linge ne prêtent que peu d'attention aux deux hommes. Nul n'écoute leur conversation. Pas vraiment, en tout cas. Les cheveux collés au front à cause de la sueur, elles continuent leur labeur. Le lendemain, il faudra recommencer. Et si ce n'est pas le lendemain, ce sera le surlendemain. Tel Sisyphe, du bas de sa colline, elle refond ce qui est défait, inlassablement. Payée à l'occasion par des coups de ceinture ou de gifles d'une même volée, indemnisée souvent par le départ de leurs enfants, bien éduqués, instruits grâce à leur sacrifice, employés quelque part, si possible, auprès de l'État. Donc l'intrigue, de manière générale, elle n'a pas de lien avec ces femmes dont il est question dans le passage. Pourtant, vous tenez à décrire leur quotidien et les difficultés qu'elles rencontrent en tant que femmes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une volonté féministe derrière ce passage, la volonté de dire la dureté de la vie quand on est une femme à cette époque ?
Alors, il y a une volonté humaniste, en tout cas dans tout le livre. Et je crois que le féminisme est un humanisme. Et je préfère aux différences de genre la proximité ou l'union des êtres. Et c'est pour ça que je décris ce passage-là, parce que d'une part, c'est l'occasion de pouvoir parler de choses qui nous plaisent. C'est pas quelque chose, quand j'ai commencé à écrire le livre, qui était programmé. On est aussi surpris parfois par ce que l'esprit nous amène, les mots se suivent les uns et les autres. Et cette partie-là du bouquin, c'est en quelque sorte un décor pour le livre. C'est pour montrer qu'ils sont à l'écart, qu'ils sont là aussi en quelque sorte protégés dans leur discussion, parce que Mamadou discute à ce moment-là avec le prêtre avec qui tout est opposé, enfin tout les oppose en quelque sorte, mais il y a quelque chose qui les rassemble et qui est plus fort que leur division politique ou leur division de vie ou leur différence de peau. il y a quelque chose qui les rassemble, c'est la volonté d'améliorer le genre humain ou le sort des êtres humains. Et donc ils vont dans un endroit où ils savent qu'ils ne seront pas dérangés, ils ne seront pas écoutés, ils ne seront pas trahis, parce qu'on a là des personnes qui vaquent à leurs occupations, pour lesquelles c'est particulièrement difficile. Et c'est, ce sont des scènes qui sont inspirées de ce que j'ai pu voir dans le lavoir de l'endroit où j'ai vécu une grande partie de mon enfance, du côté de Saint-Pierre-Quibignon, où on voyait des personnes arriver avec leurs brouettes, et c'était des qui allaient au lavoir pour laver le linge, parce qu'il n'y avait pas de machine, voire même pas d'électricité, et qui allaient rester une partie de leur journée à laver du linge qui est particulièrement lourd quand celui-ci est mouillé. Donc c'est on est bien dans les années 70, il y a encore des lavoirs municipaux. Aujourd'hui, ils sont ça nous sert de quoi, de lieu de promenade ou de repos, mais à l'époque, ça a vraiment une utilité, comme des fours à pain ont pu avoir une utilité dans leur temps. Et puis c'est aussi quelque chose qui me ramène à une forme d'histoire familiale, parce que mes grands-mères ont fait ce travail-là, ça m'a été décrit plein de fois. Alors elles n'ont pas reçu de coups de ceinturon, mais la qualité de vie de l'époque pour les femmes, c'est aussi pour montrer que il y a une évolution dans la manière dont les choses sont aujourd'hui reconnues ou dénoncées ou refusées. Et puis je crois aussi une manière de montrer que les temps ont changé, que les violences d'hier étaient vraisemblablement plus importantes que celles d'aujourd'hui, même si celles-ci sont toujours condamnables. Et donc il y a l'envie de marquer le coup en rendant en quelque sorte hommage à ces femmes. Là, on n'est pas tout à fait dans une société matriarcale en Bretagne, mais on sait qu'il y a une importance particulière pour les femmes dans la manière de vivre, et peut-être aussi dans une forme de douceur dans les rapports humains qui peuvent être les nôtres, et qui tient vraisemblablement au fait que les femmes ont eu une importance de tout temps, et que moi j'ai pu voir chez mes grands-parents, par exemple, maternels, où l'équilibre qu'il pouvait y avoir entre les deux, dans la nature du pouvoir familial, était et un élément qui est inspirant pour ensuite mener son existence. Donc là, c'est l'occasion de rendre hommage à ces femmes-là, et aussi de l'utiliser dans le livre pour montrer ce côté un peu caché, quand on veut ne pas être écouté par les autres hommes, parce que là, c'est une affaire d'hommes, cette histoire, il faut aller près des femmes.
Il y a un sujet sur lequel vous n'insistez pas trop, c'est le racisme, le racisme que peut subir Mama, qui est un homme noir dans le Brest des années 70 et un peu avant quand il arrive. Alors évidemment, il y a des passages où vous en parlez, mais vous n'en faites pas un combat, vous n'en faites pas un sujet principal. Pourquoi ?
Parce que, alors là, c'est peut-être un défaut que j'ai, c'est que je ne vois pas les couleurs. Quand je vois un être humain... Je vois pas les couleurs. Je vois un autre être humain, et c'est ce que j'ai voulu faire transparaître chez Mama, qui réagit quand même à plusieurs reprises, 2-3 reprises, quand il s'agit de sa couleur de peau, notamment quand il arrive sur Brest. On lui demande d'où il vient, et puis il le prend assez mal, parce que il y a un synonyme, enfin, l'idée que derrière on n'accepte pas la différence, et qu'on le suppose étranger par sa couleur de peau et pas par l'origine qui est la sienne. C'est pas que j'y crois pas, parce que c'est pas une question de croyance, mais je refuse cet état de fait là. Le personnage de Mama, il est inspiré par un ami qui est quelqu'un que je connais depuis très 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 longtemps, et qui sert aujourd'hui la France dans son quotidien de militaire. Et c'était une manière là de pouvoir prendre appui sur lui, de pouvoir avoir ce personnage qui existe véritablement. Donc même si je le décris peu physiquement, Mamadou, dans mon esprit, c'est cet individu qui se trouve être noir, mais ça, c'est un hasard de l'existence. Il ne l'a pas décidé, comme moi, j'ai pas décidé d'être blanc. Et je pense que dans l'idée de la France, ou de l'idée du concept que peut être notre pays, on a été relativement protégé des différences qui sont liées aux couleurs, aux races, aux religions, etc. Alors, c'est peut-être pas la réalité toujours, mais c'est en tout cas ce que dit la Constitution, et c'est sur quoi est basé notre état de droit. Il peut y avoir des différences, mais je crois pas qu'aujourd'hui on soit ici dans une ville qui fasse très très attention à la couleur de peau des individus, ni à la couleur de leurs yeux, ni à la couleur de leurs cheveux, mais c'est plutôt ce qu'ils font pour la société qui fait sens.
Et malgré tout, pour continuer avec le fait d'avoir un personnage central qui est noir, est-ce que c'est pour cette raison, entre autres, que vous avez appelé votre livre de cette manière, donc Barack Obama, qui forcément fait référence, enfin, en tout cas, dont le titre fait référence à l'ancien président des États-Unis, parce que le président Barack Obama et Mamadou sont deux hommes noirs mis en avant et relativement importants dans leur domaine?
Alors le livre a d'abord été un titre avant d'être un livre. Et je peux raconter peut-être cette histoire de la naissance du titre. C'est pour moi une source d'inspiration forte. C'est-à-dire que de façon assez étonnante, j'allais conduire une de mes filles qui se trouve être des filles métisses. C'est aussi peut-être pour ça que je vois pas les couleurs, parce que je les vois pas chez mes filles. Ce sont pas des personnes qui ont des couleurs mélangées, ce sont des personnes qui sont d'abord mes filles. Et donc je les conduis à l'école, on s'apprête à traverser le pont de l'Arteloire en voiture. Et il y a à la fois le moment, l'actualité et puis la perspective. Alors le moment, c'est quoi? C'est le livre a été écrit en 2013, Barack Obama, a été réélu président de la République américaine. L'élection a dû avoir lieu, comme d'habitude, en novembre. Il va prendre ses fonctions en janvier pour son nouveau mandat. Bon, ça fait pas de doute, il y a moins de polémiques qu'il y en a eu il y a quelques semaines. Donc il va prendre ses fonctions et on en parle quand même un peu moins que cette année, mais on en parle un peu à la radio. Il va faire un discours, il prend ses fonctions aujourd'hui, son deuxième mandat, etc. On est à peu près à ce moment-là où j'écoute la radio en les amenant à l'école. Et on parle de Barack Obama. Et au moment, et c'est ça l'instant, c'est au moment où ça apparaît dans le à la radio, dans le poste, c'est pas sur Radio U, mais c'est sur une radio qui est un peu moins bien, mais qui s'appelle France Info, que j'entends ça, et je m'apprête à traverser les rames du tramway qui sont à proximité. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire avec mes enfants quand elles étaient un peu plus jeunes, j'essayais de leur décrire les endroits qu'on voyait, qu'est-ce que c'était ici, qu'est-ce qu'on pouvait trouver là. Et juste à côté de cette rame de tramway qui se situe du côté de Quilly-Vierzon, il y avait pendant très très longtemps, il y a eu des vestiges des baraques, en tout cas des maisons très provisoires et qui ont été du provisoire qui a duré, où des personnes habitaient. On voyait que c'était un peu moyen comme petite habitat, mais il y avait des personnes qui étaient là quand même. Donc souvent, je leur expliquais ce que ça a été, et donc du coup aussi les baraques telles qu'elles pouvaient être dans l'instant. Et au moment où je passe, alors c'est quasiment, peut-être que c'est électrique, je sais pas, je passe les rames du tramway, on parle de Barack Obama à la radio. Je me souviens que il y a comme ça des réminiscences à chaque fois qu'on passe à un endroit, on se rappelle de l'histoire qu'on a racontée à cet endroit-là et ça renforce le pouvoir de la mémoire. Je me rappelle des baraques qui étaient là. Et puis il y a la perspective, c'est je suis en train de chercher une autre idée pour un livre. C'est-à-dire j'ai envie d'écrire et il y a cette espèce d'énergie là que le cerveau cherche à combler. On a envie de trouver une histoire, on l'a pas, on sait pas comment faire pour l'avoir. Il y a pas de méthode qui dit voilà pour avoir des idées il suffit de suivre ça ou prendre des pilules ou boire du café. Et puis ça va fonctionner, mais il y a quand même une envie. Et donc cette envie-là, elle est en moi. Il y a Barack Obama dont on parle à la télévision, il y a la baraque qui est là, et là, dans mon esprit, ça fait Barack Obama. Je trouve le titre sympa, c'est pas rigoler, c'est pas hyper drôle, mais en tout cas, il y a quelque chose de potentiellement subtil, et vous le croirez ou pas, mais l'histoire défile en un instant. C'est-à-dire que si j'avais imprimé ce que j'avais dans mon cerveau, je serais pas arrivé très très loin du livre qui est aujourd'hui sur cette table. En tout cas, sur l'essentiel. Après, il a fallu trouver une modalité, une structure d'histoire dont vous avez parlé tout à l'heure, l'alternance des chapitres entre le présent et le passé. Il a fallu trouver des noms de personnages. Il y a la scène du lavoir que j'ai pas dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai l'histoire. En tout cas, je vois Mama et en plus, Je suis, comme je vous l'ai dit, intéressé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et parmi cette histoire-là, il y a des histoires qui sont tristes, comme ces républicains espagnols qui participent à la libération de la France mais qui sont pas reconnus, qu'on interdit de défiler sur les Champs-Élysées. Idem pour les troupes coloniales qui ont, on le sait bien, participé de façon grande à la libération, au moins de la France aussi, mais de l'Europe en particulier. Le film indigène avait dû être diffusé pas très très longtemps auparavant. Donc tout ça fait un quelque chose qui m'amène à vouloir rendre hommage aussi par l'intermédiaire de ce personnage, même si on le voit jamais en situation de soldat, on le voit en situation de responsabilité et de droiture. Et je crois que Mamadou, il est vertical dans son humanité, et il rencontre des gens aussi, il s'allie avec des gens qui sont verticaux dans leur propre humanité, même s'ils n'ont pas les mêmes idées que lui.
Et pour revenir sur le livre, vous avez fait le choix de reverser 10% des bénéfices de ce livre à l'association Valentin A8, donc qui est une association pour les mâles et non-voyants. Et par ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Joe, qui est donc le grand-père, c'est un personnage qui est aveugle, même s'il n'est pas aveugle de naissance. C'est une thématique qui vous tenait à cœur?
Alors c'est une thématique qui m'a tenu à cœur. J'ai eu l'occasion de rencontrer, quand j'étais journaliste, plein de personnes qui travaillaient dans une forme d'humanitaire, en tout cas de solidarité avec avec les autres. Ça a pu être des personnes pour l'Association des paralysés de France, enfin, des personnes qui avaient envie d'agir pour que le monde soit un peu meilleur. Et pendant longtemps, j'ai écrit sur ces gens-là en partie. C'était pas la base essentielle de mon métier, mais j'écrivais souvent des articles sur les bonnes idées, les bonnes initiatives, ce type de choses. Et la perspective de pouvoir rendre ce héros Joe Cabioche aveugle, donner la possibilité, en faisant en sorte que ce soit pas donné sens, ça donnait plein de possibilités. Le fait qu'il puisse retrouver la vue à un moment donné, c'est quelque chose qui est possible, c'est pas probable, mais c'est possible. Et surtout, ça donnait les possibilités de quelqu'un qui avait pu voir auparavant. On sait aussi que les personnages ou les personnes qui perdent un sens ont tendance à développer d'autres pour compenser, au moins en partie. Donc ça, pour quelqu'un qui est dans la police, la question du sixième sens, de l'intuition, etc., c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et quelques temps auparavant, les choses se lisent. C'est pour ça qu'il faut vivre beaucoup de choses, au moins dans la réalité parfois, pour pouvoir écrire des histoires. Des étudiants que j'avais avaient organisé une sorte de goûter dans le noir, dans l'idée de montrer les difficultés de quelqu'un qui ne voit pas, dans le cadre d'une action d'un cours sur la communication et sur la promotion d'une idée. Et donc ça m'a semblé assez naturel d'aller dans cette logique-là. Je profitais en quelque sorte des aveugles en rendant mon personnage aveugle, et donc c'était la possibilité pour moi de pouvoir compenser en partie cet emprunt d'un handicap que je n'ai pas.
Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez d'autres livres en préparation ?
Oui, j'en ai toujours plein. J'ai trop de livres en préparation pour le temps qui est le mien. Dans la série des Joe Cabioche, je pense que j'arrive, c'est pas que j'arrive à la fin, je peux leur faire vivre plein d'histoires, mais je trouve qu'avec ce bouquin, Barack Obama, j'ai terminé un chapitre de leurs aventures. Peut-être qu'il faudra, peut-être que je le reprendrai un jour. Je me suis attaché à ces personnages. Ils sont tous inspirés dans une sorte de portrait cubiste de personnes que je connais. Dans le personnage de Joe Cabioche, il y a mon père dans la stature, quand j'imaginais marcher, c'était à mon père que je pensais. Dans celui de Chloé Cabioche, il y a un mélange de mes deux filles. Dans les noms qui sont donnés à certains des personnages, j'ai emprunté chez les noms de mes étudiants les patronymes, parce que ça me faisait rire. Ils sont pas mis en évidence de mauvaise façon, donc j'ai emprunté dans les gens que je connaissais. Le personnage du prêtre, c'est quelqu'un aussi que j'ai véritablement en tête. Mais voilà, j'ai donné beaucoup, et peut-être que c'est... Enfin, j'imagine en tout cas lancer une autre série de livres où cette fois-ci on irait dans un Brest d'avant. Je vais garder Brest parce que je sais pas, je vais peut-être pas écrire sur autre chose que sur Brest. Pour un enquêteur qui il aurait une période de vie des années 20 aux années 50, 60 à peu près, qui lui permettrait d'avoir un périmètre d'action assez fort. J'aime beaucoup les livres de Philippe Kerr et de son inspecteur Gunther, qui est un inspecteur allemand qui participe, qui est dans la police et qui est plutôt quelqu'un de républicain, d'humaniste, etc. Et qui vit comme ça plusieurs histoires sur des périodes de temps relativement importantes. Donc ça, c'est une de mes idées. J'ai commencé à l'écrire, ça se passerait à Montbarret, donc on est en 1940, juin 1940, les Allemands arrivent sur Brest, et puis la police va devoir participer ou pas à cette collaboration qui arrive. Puis autrement, celui que je vais écrire cette année, là c'est décidé, j'avais besoin de retrouver de l'énergie et de l'appétit pour l'écriture. C'est un livre qui sera toujours sur Brest, un thriller politique qui, pour l'instant, le nom de code, c'est Un Zef dans le vent, et ça raconte l'histoire, le parcours d'une vie politique d'un militant de gauche qui se retrouve dans les années 60 à avoir vraiment envie de changer le monde, et qui progressivement va perdre une partie de ses illusions au fur et à mesure qu'il va monter les marches du pouvoir.
Donc on attend d'en savoir un peu plus sur ce livre une prochaine fois peut-être. Merci beaucoup Mickaël.
Je vous en prie Marie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Donc je le rappelle, vous avez écrit le roman Barack Obama, que vous pouvez probablement retrouver en bibliothèque si ça vous intéresse. Et tout de suite, on écoute Love Street de Claude Fontaine.
Cause I've got my
Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Le quoi qu'il en coûte et les promesses de campagne d'Emmanuel Macron semblent loin. Le projet de la carte scolaire en Finistère fait gronder les syndicats. L'ensemble des organisations syndicales, FSU, Sud, FO, CGT, CFDT et UNSA, ont voté contre le projet de carte scolaire présenté la semaine dernière par la direction départementale de l'éducation nationale du Finistère en comité technique social département. Au total, 54 classes et 14 postes de remplaçants devraient être supprimés en septembre prochain. Hier, manifestation d'une vingtaine de parents aux Quatre Moulins pour protester contre la fermeture de classes. Et ce n'est pas la seule dans le Finistère, on pourrait en citer plein d'autres. Pour parler d'un exemple complet, nous avons avec nous en plateau M. Erwan Léost, de l'association des parents d'élèves de l'école Jules Ferry du Relais-Kerlion. Bonjour.
Bonjour.
Et Mme Macingan, conseillère municipale des Verts du Relais-Kerlion. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Pierre-Louis.
Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Tu le disais Marie, les promesses de campagne d'Emmanuel Macron semblent loin, très loin même. Je cite le programme de celui qui était alors candidat, c'était en 2017. Nous donnerons la priorité à l'école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en sixième. Je cite également Jean-Michel Blanquer, que je ne présente pas, qui était en septembre 2018 derrière les micros d'Europe 1 et qui qualifiait l'école primaire de « mère de toutes les batailles ». Alors, petite précision en chiffres, en 2019, dans le premier degré, donc on parle bien de l'école primaire et de l'école maternelle, dans le public, il y avait 333 000 enseignants. En 2020, les enseignants en école publique étaient 332 850. Bon, ceci dit, il y a eu une baisse d'environ 40 000 élèves. Et dans le même temps, par contre, 1 000 postes de moins sont proposés au concours pour 2021 par rapport à 2020. Alors, comme tu l'as dit, Marie, pour la rentrée prochaine dans le Finistère, on parle de 54 fermetures de classes, 14 suppressions de postes de remplaçants. Et du côté du Relais Kerruon, on parle de la suppression de 2 classes à Jules Ferry et à Jean Moulin, et un poste de titulaire remplaçant en moins aussi à Achille Grand. Comment vous réagissez à cette cascade de chiffres, j'ai envie de dire, Erwan Léost
On a été surpris de l'annonce qui a été faite donc, de supprimer une classe à Jules Ferry, en ce qui nous concerne. Surtout que dans la période que nous vivons, on s'est battu déjà pour que les enfants puissent revenir à l'école en fin d'année dernière avec le Covid. Il y a eu beaucoup de décrochages, il y a beaucoup d'élèves qui ont dû récupérer un niveau correct et resuivre les cours. Donc tout le monde a pris du retard. Et cette année, en fin d'année, on nous dit on va refermer une classe pour encore nous enfoncer, en fait. On a l'impression de ne pas sortir, en fait, de cette spirale qui est hyper négative en ce moment.
Et pour vous, Marion Macingan, comment vous réagissez là à ces chiffres?
Nous, on rejoint tout à fait cet étonnement. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que sur Jules Ferry, par exemple, on a une filière bilingue. Et que malheureusement, ce que les syndicats pointent aussi sur le Finistère, c'est que le développement de cette filière bilingue se fait en comptant les chiffres de façon globale au lieu de séparer le bilingue et le monolingue. Donc en fait, on arrive à des aberrations. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures là sur le Finistère, il y a des ouvertures de 9 classes bilingues et seulement 3 en monolingue. Donc on voit que ça se fait au détriment, alors que c'est une filière à promouvoir. Il faudrait que les chiffres soient séparés. Sur les enseignants remplaçants, donc nous on va perdre un poste de remplaçant sur le bourg. En fait, c'est un enseignant qui est amené à faire des remplacements partout. Or, sur tout le Finistère et dans d'autres départements, il y a des problèmes déjà pour remplacer tous les enseignants. On sait qu'avec le surmenage, l'épuisement, tout ce que les enseignants donnent pour suivre les mesures avec le Covid, et potentiellement ils peuvent être aussi malades, on ne peut pas se permettre de diminuer le nombre de remplaçants potentiels, que ce soit au Relais ou sur tout le territoire. Donc après, nous, on rejoint tout à fait la mobilisation des parents d'élèves et des enseignants pour essayer de maintenir au mieux les postes.
Alors, en parlant de mobilisation, vous manifestiez la semaine dernière, donc lundi dernier, c'était le 8. Quelles étaient et quelles sont toujours, j'imagine, vos revendications, Erwan Léost?
Donc le maintien de ce poste déjà pour l'école Jules Ferry au Relais-Kerlion et nous laisser en fait, entre guillemets, tranquille pour continuer à travailler. On a une bonne équipe enseignante qui travaille depuis des années, qui y a une vraie continuité. Et là, on nous parle d'un poste qui serait supprimé. Donc, c'est un poste d'enseignant. C'est une enseignante qui, pour l'instant, ne sait pas si elle va rester là l'année prochaine ou pas, qui a créé quelque chose, qui a créé une ambiance de classe et qui travaille très bien. Et donc, on se retrouve encore à ne pas savoir et ce qui va se passer l'année prochaine. On a des enfants qui, au relais Kerion, qui peut être une ville assez, assez riche, entre guillemets, dans la métropole, mais nous avons quand même... Des enfants qui viennent de l'étranger, qui sont hébergés par exemple à Emmaüs ou par l'association 100 pour un toit. Donc ce sont des enfants, il y a des Nigérians, il y a des Ivoiriens, il me semble des Albanais. Donc ils viennent là, c'est des enfants qui parlent très peu le français, donc des enfants qui ont besoin d'attention, qui sont intégrés aux classes normalement, mais pour que ces enfants soient intégrés, on demande à ce que les classes non plus ne soient pas trop nombreuses. Donc là, en fait, ce que fait l'éducation nationale, c'est qu'ils prennent des chiffres, ils divisent par le nombre de classes, et puis après, voilà, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Ils ne tiennent pas compte du tout des spécificités des écoles, que ça soit dans Brest, au niveau des ZEP. Ils ne tiennent compte de rien, en fait, juste chiffrer, en fait. On a un chiffre, on fait, et puis voilà, on enlève quand il y a besoin d'enlever.
Et pour vous, Marion McKingan, alors je rappelle que vous êtes conseillère municipale d'opposition au relais Kerugon, les Verts.
Alors nous, on n'est pas dans l'opposition pour l'opposition. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai convié Erwan, qui est aussi dans une liste qui était sur l'opposition. On n'est pas pour déconstruire tout ce qui se fait. Là, je pense que tous les élus sont mobilisés et mobilisables pour cette bonne cause. Sur le problème des effectifs, c'est vrai que, comme disait Erwan, le Relecq peut être perçu comme une ville aisée, mais on a quand même pas mal de logements sociaux par rapport à d'autres communes. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, vu le contexte en plus sanitaire, c'est aberrant de pas faire un moratoire pour stabiliser les équipes et pour permettre aux enseignants d'accompagner au mieux le décrochage scolaire qui peut se produire, quelles que soient les origines sociales, en fait.
Ouais, effectivement, on sent bien les conséquences que ça va avoir sur les enfants. Moi, je me posais aussi la question, les conséquences que ça peut avoir sur une mairie, en fait, de perdre comme ça des classes pour la ville, tout simplement. Là, je sais pas, peut-être que d'ailleurs Erwan Léost peut avoir son avis en termes, je sais pas, ça peut être d'attractivité, par exemple, ou tout simplement de vie.
C'est une question d'attractivité. Après, c'est une image que la ville rend en fermant des classes. C'est jamais bon, je pense. Là, faudrait en parler au maire du relais Kerion, mais c'est jamais une bonne image qu'on renvoie si on ferme deux classes sur une ville même de 12 000 habitants. Donc, je pense que c'est pas un bon message qu'on leur envoie.
Et pour vous, Marion McKingan, j'imagine que vous rejoignez Erwan Léost là-dessus.
Oui, tout à fait. L'attractivité de la ville, elle passe aussi par la qualité de l'enseignement et de ce qui est proposé aux élèves. C'est vrai que nous, on est un petit peu coincés sur l'école Jules Ferry, parce qu'on a des lotissements qui se construisent sur Guy Pava, qui est juste à côté. On ne peut pas se permettre d'accueillir ces élèves qui, du coup, doivent aller sur des écoles beaucoup plus loin, ce qui, au niveau environnemental, est une aberration aussi. Donc, il y a tout un jeu comme ça de comptabilité qui se fait, alors que les élèves seraient beaucoup mieux d'être accueillis au plus proche et dans des bonnes conditions. C'est vrai que les futurs parents ou les jeunes couples qui arrivent vont forcément réfléchir, je pense, aux conditions d'accueil.
Alors, on le disait en introduction, vous n'êtes pas les seuls concernés, malheureusement, au relais Kerion. On ne va pas citer tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup trop. 54 au total fermeture de classe dans le Finistère. Est-ce que vous êtes soudés, là je vais me tourner vers Erwan Léost, est-ce que vous échangez entre associations de parents d'élèves sur les différentes écoles? Parce que, on l'a dit, ça se passe aussi, c'est une décision qui va se passer au niveau départemental. Et donc, ça va rejoindre la question de qu'est-ce qu'on peut faire?
Je dirais que malheureusement, on n'a pas de contact avec les autres écoles. C'est vrai qu'on voit par presse interposée les autres écoles qui se battent aussi comme nous. Malheureusement, il n'y a pas encore d'association entre les associations de parents d'élèves. Ça serait peut-être pas mal, oui, de se réunir tous, parce que 54 classes sur le département, c'est énorme, énorme, énorme. Plus les remplacements qui ne seront plus faits du fait des 14 postes, je crois, qui sont supprimés. Déjà, nous, on se bat l'année, on a une grosse structure à Jules Ferry, on a 19 classes. Donc, régulièrement, il y a des enseignants absents pour diverses raisons. et on galère toute l'année à avoir une continuité, à avoir des profs remplaçants tout le temps. Et c'est un vrai combat que nous, on mène à Jules Ferry depuis des années. Et là, on nous apprend qu'on va encore en supprimer, donc ça va être encore plus la galère pour les enseignants.
Marion McIngorn, d'un point de vue politique, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Nous, on peut appuyer effectivement ce qui se passe au niveau des écoles et faire remonter au niveau des... Je pense qu'au niveau des inspections d'académie. Maintenant, c'est vrai que il ne faudrait pas que ce soit celui qui râle le plus, qui obtienne quelque chose. Donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait de la concertation et des choses raisonnées pour que ce ne soit pas celui qui se bat le plus qui obtient. Malheureusement, on se rend compte... Moi, j'ai été sur cette école-là avant... Avant Erwan, c'est vrai qu'il faut systématiquement aller au combat, réclamer. Les problèmes de remplacement, c'est perpétuel et ça s'aggrave. Donc, c'est vrai que c'est inquiétant qui diminue et le nombre de postes, les fermetures de classes et le nombre d'enseignants remplaçants, puisque les enseignants vont être de plus en plus en difficulté. Ils vont pas pouvoir aller se former non plus. On a quand même besoin que les enseignants aient une formation continue. Il faut pouvoir remplacer les enseignants quand ils partent en formation. Donc le fait qu'il y ait moins de remplacements, c'est vraiment très inquiétant.
Il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans l'article, il me semble que c'est de West France qui a relayé votre manifestation. Il y avait une phrase qui ressortait, c'est « Est-ce que c'est bien le moment de faire des économies dans le budget de l'éducation nationale en supprimant des classes et des postes et en sacrifiant les citoyens de demain ?» C'est vrai qu'il y a aussi une question de timing, c'est très particulier de faire ça sur cette année je ne sais pas, c'était Erwan Léost.
C'est sûrement pas la bonne année en fait. On a un contexte anxiogène que ce soit du petit aux personnes les plus âgées. On le rencontre tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est vraiment pas le bon moment. On peut laisser les gens tranquilles. On a réussi, entre guillemets, à trouver de l'argent pour aider telle et telle profession, ce qui est très bien. Par contre, on a l'impression que l'éducation, là, elle est laissée pour compte. On galère, mais on a l'impression que... qu'on nous enfonce la tête à chaque fois dans l'eau. Et c'est vraiment pas le bon moment. On a des enfants qui sont fatigués d'avoir le masque toute la journée. On a des enseignants qui sont fatigués aussi, pareil, de faire cours avec des masques. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de... Non, il aurait fallu arrêter. Là, on arrête, on fait un moratoire. On attend un ou deux ans, remettre tout le monde sur le même pied d'égalité et repartir après et refaire un bilan dans deux ans, même s'il y a des fermetures de classe un jour à avoir, bon, parce que les effectifs diminuent de trop, je suis d'accord. Mais nous, sur Jules Ferry, on est à plus 3 élèves sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Je pense que c'est pas le bon moment d'aller fermer une classe, quoi.
Oui, comme le disait Marie en introduction, le quoi qu'il en coûte paraît ne pas s'appliquer partout. On va être limité en temps, mais une dernière question tout de même. Un nouveau comité technique spécial départemental, c'est le joli petit nom qu'ils lui ont donné, avec un nouveau projet de carte, doit être convoqué suite au rejet en bloc des syndicats, comme l'a dit Marie un peu plus tôt. Ce sera le 18 février 2021, c'est-à-dire dans deux jours, jeudi. Avez-vous de l'espoir, même si, selon Sud Éducation, ce nouveau projet comprend exactement les mêmes propositions de 54 fermetures de classes que celles rejetées par l'ensemble des syndicats. Marion McIngorn, a-t-on de l'espoir ?
Je n'ai pas d'avis, franchement. Il ne faut jamais perdre espoir. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression de se heurter à un mur. Je pense qu'eux-mêmes, au-dessus, ont des contraintes budgétaires et c'est des choses purement... Des coûts, ils ont un nombre d'enseignants, un nombre de classes à diminuer parce que voilà, il y a un nombre d'enfants en moins et donc ils sont tenus à ça et du coup tous les bons arguments ne peuvent pas être entendus. Donc ouais, il faut garder espoir, mais je pense qu'il est... On va essayer de stabiliser ou de gagner le plus possible sur un certain nombre de postes.
Erwan Léost, vous avez de l'espoir ?
J'ai de l'espoir, on essaye toujours d'avoir de l'espoir, on se bat pour ça, après... Je vous cache pas que je suis soucieux un peu, mais non, faut garder espoir jusqu'à, et puis on se battra même après s'il faut continuer à se battre. Il y a pas à tortiller. C'est pour les enfants qu'on le fait, et il faut toujours garder ça en tête que c'est pour les enfants qu'on le fait. C'est pas pour nous. Nous on a passé l'âge d'aller à l'école, mais pour les enfants de garder des bonnes conditions. Et puis ça va après jusqu'à la fac, jusqu'à ça vous suit tout le temps. Si vous prenez du retard dès le début, ben le retard il s'accumule et voilà.
Oui, c'est ça. C'est en fait ce qui est annoncé dans les promesses de campagne de 2017 du candidat Macron que j'avais lu. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Erwan Léost de l'association des parents d'élèves de l'école Jules Ferry du Relecq-Quéruon et Marion Maquingon, conseillère municipale Les Verts au Relecq-Quéruon. Marie, je te rends la main.
Tout de suite, on va écouter une musique. Qui s'intitule Try Again de Andy Schauf.
Somewhere between drunkenness and chivalry, I hold the door open and let her pass through. She says thanks to me in a British accent. And I trade into her in the same voice. She laughs at me, says, what was that supposed to be? I say, I'm sorry, I'm from a different part of the country. She says, come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Drunkenness and sincerity, I smile at her for just a little too long. Charlie's drinking wine, Judy's laughing at him. She says, I forget that you're such a fancy guy. He tips his hat, says, m'lady, do you come here often? I swear I've seen them do this 100 times before. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again. Somewhere between drunkenness and charity, she puts her hand on the sleeve of my coat. She says, I've missed this. I say, I know I've missed you too. She says, I was actually talking about your coat. She makes me laugh. Oh wow, she makes me laugh. I just let my head sink down and fake some deep sores. Come on, baby, try again. Drunkenness and jealousy, I watch her talking to some old friend. What a reunion, he recognized her across the room. How many years could there be to catch up on? And somewhere between drunkenness and honesty, I make a silent toast to the things that I do and don't miss. Come on, baby, try again. Come on, baby, try again.
Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on continue l'émission avec la chronique radiophonique L'économie autrement, en partenariat avec Ascoria et la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires. Créer un espace de rencontre, d'échange, d'idées autour des cultures, des arts, de l'économie circulaire ou des mobilités, c'est la volonté de l'association CEAPI. Une volonté freinée par la crise de la Covid-19. Mais Nausicaa Mack et Thomas Arnoux et tous les autres ont de la ressource.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
On était quatre samedi, on s'est réunis chez Jean-Louis. J'avais proposé qu'on apporte chacun un objet qui signifiait notre rapport sensible à l'art, sensible dans tous les sens du terme. Et donc, en fait, même sans ce support-là, il y a des conversations qui se sont engagées directement sur, par exemple, le jumelage entre Montfort-sur-Meux et l'Allemagne. Ouais. Et puisque une de nos membres a apporté de quoi faire du vin chaud qui venait de Nuremberg. Donc, on est parti directement sur ces logiques d'échange culturel là, et ce que ça apportait, comment ça pouvait ouvrir l'esprit, permettre de voir les choses différemment.
Les gens qui composent ce collectif pour monter ce tiers-lieu, ce sont des gens qui faisaient des choses dans leur coin et qui se rassemblent pour mettre tout en commun.
Moi, je trouve qu'on est assez porté par une même envie globale qui est de créer un lieu où on peut se retrouver, de convivial, qui toucherait à différents domaines, qui aurait vraiment vocation à faire avancer les choses. Voilà, porté par un fond écologique, je pense. On a tous envie de d'apporter sa pierre à l'édifice, et c'est comment construire ensemble en fait un projet en local. Et s'inscrire vraiment, s'ancrer vraiment sur le territoire.
Des belles idées qui ont pris un petit peu de retard, on l'imagine, de fait, de par la situation que vous avez traversée, mais qui continuent de se mettre en place. Vous avez envisagé les choses autrement suite à la crise sanitaire, Thomas ?
Oui, effectivement. Donc le premier objectif, on va pas se le cacher, c'était de trouver un lieu qui rassemble. Effectivement, le rassemblement, c'est pas tellement d'actualité. Donc on continue toujours à prospecter, bien sûr, pour un lieu, puisqu'effectivement, un jour, ça s'arrêtera, et on souhaite vraiment voir ce projet aboutir dans un lieu. Et aujourd'hui, on essaye de transformer les choses différemment, de pouvoir créer des tiers-lieux éphémères, par exemple. Et du coup, non pas d'avoir un seul lieu où on mène toutes les actions simultanément, mais de pouvoir les mener au cours de l'année. Là, on essaye d'avoir une place, notamment juste à côté du marché bio, le samedi matin, pour pouvoir, effectivement, chaque samedi, proposer une activité autour de différents thèmes.
Et vous, donc, Nausicaa, c'est l'économie circulaire. Vous avez imaginé des formes, vous avez dû les revoir également en fonction du contexte sanitaire. Ça a bousculé un petit peu les plans de toute l'équipe ?
Je pense qu'on a réussi à s'adapter. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à se voir en physique. Mais voilà, on arrive à s'organiser autour de visio. On a créé des commissions sur différents thèmes. Donc comme ça, on a créé des équipes. Chaque équipe avance sur différents thèmes et s'organise à sa manière. Donc je sais qu'il y a des équipes qui se réunissent par visio toutes les deux semaines, par exemple. Voilà, et puis chacun fait aussi selon son temps disponible, son temps libre, c'est ouvert.
C'est une première étape également importante. Vous parliez de ce lieu physique que vous ne pouvez pas trouver compte tenu des conditions sanitaires. Le fait de mettre en place des solutions plus éphémères, c'est une forme de rodage aussi pour tester vos idées, vos projets ?
Oui, tout à fait, parce que ça va permettre effectivement de les proposer à la population montfortaise, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, et effectivement d'être beaucoup plus prêt le jour où ce lieu va arriver et pour démarrer l'ensemble des activités. Oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un rodage.
Ce reportage a été réalisé par la CoreLab. Retrouvez-le en podcast sur corelab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie encore Michael Cabon, l'auteur du roman Barack Obama, d'être venu, ainsi que Madame Macingan et Erwan Léost, respectivement conseillère municipale du Relais Carillon pour Vert le Relais Carillon et membre des parents d'élèves de l'école Jules Ferry, d'être venu également. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur le 101.1 FM.